carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour à tous. Que connaissez-vous de Francis Poulenc ? Suivant votre goût et vos humeurs, vous serez attaché à ses chansons gaillardes ou à sa messe en sol majeur, à la voix humaine ou au concerto pour orgue, à la courte paille ou au dialogue des Carmélites. C'est effectivement un Poulenc pluriel qui s'offre à nous et qui n'est que le reflet de la variété de ses influences et des moments divers qui ont marqué sa formation quasiment autodidacte. Nous accueillons ici dans ce studio Simon Bassinger, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef des cahiers Francis Poulenc et c'est à cette occasion que nous vous recevons dans nos studios puisque le premier cahier de l'association Francis Poulenc est paru à l'automne 2008. Revenons au tout début de Francis Poulenc. Il est né dans une famille certes mélomane, mais pas tout à fait musicienne, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'a pas de formation classique comme on pourrait s'attendre avec ce genre de compositeur.
Oui, alors Francis Poulenc est né en 1899 d'une famille dont le père était aveyronnais et la mère bien parisienne. Et à la maison, ne jouait que sa mère sur un piano. Et Francis Poulenc a
été pianiste amateur, on va dire.
Pianiste amateur, complètement. Et tout de même était subjugué un petit peu comme ça par les mélodies que sa mère jouait. Et notamment la romance de Rubinstein. Et Francis Poulenc a tout de suite été happé, si on peut dire, par cette musique.
Et par les valses de l'époque, c'est ça ?
Et par les valses de l'époque, tout à fait. Et aussi par cet environnement et par l'effet que la musique lui apportait.
Comment se passe ce déclic ? Comment est-ce que le jeune Poulenc, parce qu'il choisit très jeune d'être compositeur, hein, 18 ans, il a déjà composé sa première œuvre et elle est déjà créée, à l'âge de 18 ans, c'est quand même extrêmement jeune.
Je pense qu'au même titre que, il le dira plus tard en 1936, Francis Poulenc a eu une révélation pour le catholicisme et en tout cas pour la musique dite religieuse. Je pense que ça a été aussi un déclic que d'entendre justement sa mère jouer du piano et ensuite une personne qui est venue lui apprendre du piano et qui a été complètement son déclencheur, si on peut dire, c'est Ricardo Vignès, puisque son premier professeur de piano n'était autre que Ricardo Vignès, qui venait enseigner, voilà, une grande chance de l'époque, et qui venait bien sûr lui apprendre...
Qui l'ouvre sur les compositeurs de l'époque.
Hein? Absolument, puisque grâce à Ricardo Vignès, il va le prendre un petit peu sous son aile, il va pouvoir connaître Manuel de Falla. Voilà, et puis d'autres, bien sûr, d'autres compositeurs et d'autres musiciens de l'époque.
D'accord.
Donc c'était effectivement un coup de cœur qui a complètement déclenché en lui cette passion musicale.
Donc une formation quasiment autodidacte. Il prend quand même un tout petit peu plus tard, à partir de 1920 et pendant 4 ans, des cours avec Charles Koechlin, des cours de piano. Donc Poulenc perfectionne sa technique de piano. Qu'est-ce que lui apporte Koechlin?
Je pense que, si vous voulez, Koechlin lui apporte vraiment la matière, puisque dans la jeunesse, si vous voulez, du travail de Francis Poulenc, on a dans un première démarche, la mélodie qui entre simplement au niveau de ses oreilles, si vous voulez. Après, on va beaucoup plus loin avec la rencontre de Ricardo Vignès. Donc, c'est un peu plus technique. Là, on le met sur le piano, on lui demande d'être un acteur, d'être un musicien. Et Koechlin va lui apprendre vraiment à s'épanouir complètement dans la musique et à devenir vraiment, à faire ressurgir le musicien qui est profondément ancré en lui.
C'est dans ces années-là aussi qu'il est amené à rencontrer Schoenberg, Webern et Berg. Donc, ses influences sont multiples. Hein,
absolument. Et puis en plus, c'est une époque qui est tout de même fructueuse au niveau de la musique, au niveau de l'art, au niveau de la littérature. C'est vrai que Francis Poulenc a retrouvé, si vous voulez, son épanouissement avec la littérature, puisqu'il fréquentait une librairie. Et à l'intérieur de cette librairie, ça foisonnait d'auteurs, de musiciens, de poètes, etc. Donc ça a été aussi effectivement un phénomène déclencheur pour pouvoir s'épanouir dans son art. Et je pense qu'un artiste, c'est ça. À un moment donné, c'est enfoui, c'est un petit peu refoulé. Et là, la rencontre du monde, de la littérature, de la mode et de la musique ont fait que le jeune Poulenc, qui n'avait pas dans sa famille de raison d'être musicien, puisque son père était tout simplement avec son frère, il tenait une usine chimiste qui a donné bien sûr le groupe Rhône Poulenc à l'époque, et sa mère, avironnaise, est disparue relativement tôt. Hein, puisqu'il avait 16 ans quand sa mère a quitté ce monde. Mmh. Voilà.
Donc très tôt, Francis Poulenc rencontre des poètes et se familiarise avec la poésie, ce qui va être un déclencheur pour ses mélodies essentiellement, puisqu'il a écrit énormément de mélodies inspirées des poèmes d'Apollinaire, de Cocteau,
d'Éluard,
de Max Jacob.
Absolument. Absolument. Ça a été une rencontre entre la poésie et la musique extraordinaire, en tout cas, parce que...
Et très tôt, en plus.
Et très tôt, jeune. Absolument. C'est-à-dire qu'il assistait déjà, à l'époque, à cet épanouissement de poète, très vite inspiré en lecture de poésie. Et c'est aussi un déclencheur de créativité au niveau de sa musique, puisqu'il a tout de suite voulu mettre en parallèle des poètes avec des mélodies. Mmh. On sait bien qu'il a eu un attachement... considérable avec Max Jacob,
une amitié,
Paul Éluard, Lorca, donc Apollinaire. Tout ça, ça a été aussi riche au niveau de son travail et de ses mélodies.
Donc citons dès 1919, alors qu'il n'a que 20 ans, Le Bestiaire d'après Apollinaire, en 1920 Cocarde d'après Jean Cocteau, et ainsi de suite. Pendant des années, c'est vraiment sa source d'inspiration principale. Et c'est intéressant parce que dans les cahiers de Francis Poulenc, vous décortiquez la façon dont justement il essaie de travailler, là, je crois, en l'occurrence, sur une poésie d'Apollinaire. Et comment il s'imprègne de ces textes très longuement pour les faire siens, pour se les mettre en bouche et pour comprendre la musicalité de ce texte.
Je pense que Francis Poulenc a collé complètement avec ses poètes. C'est-à-dire qu'il était indissociable de toute cette époque où il a pu créer toutes ces mélodies, effectivement, comme vous le dites, Le Bestiaire et d'autres mélodies, Les Chemins de l'amour qui sont devenus. Donc, si vous voulez, tout a été vraiment touché parce qu'il le sentait comme un véritable artiste peut sentir que le texte colle à sa musique. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement d'autres poètes qui n'avaient pas une possibilité de pouvoir s'exprimer, si vous voulez, dans son travail. Il y a certains poètes qui sont là, on les voit, on les entend. On voit par exemple Max Jacob, Éluard, Lorca, qui sont récurrents, qui sont toujours, qui font partie du compagnonnage, si vous voulez, du compositeur. Et ça aussi, ça a été pour lui quelque chose d'important parce qu'il ne pouvait pas se dissocier de ses poètes.
Thank you.
Qu'est-ce qui fait la musicalité d'un poème, d'après vous ?
Je pense qu'il fait la musicalité d'un poème, c'est que les sonnets, les vers, les alexandrins s'adaptent complètement au feeling du compositeur. Et lorsque vous écoutez des mélodies comme Tel jour, telle nuit, ou que vous écoutez Les chemins de l'amour, ou d'autres mélodies, Le bestiaire, vous en parliez tout à l'heure, c'est complètement rentré dans les notes, dans la musique. Et c'est ça un petit peu ce que l'univers de Francis Poulenc.
Ce qui est intéressant dans ce cahier, c'est quand on comprend sa façon de travailler. Et je crois que donc il essayait de ne pas attacher de mélodie dès le départ, de ne surtout pas changer de tonalité avec celle qu'il sentait dès le départ. Et s'il pouvait entendre une mélodie, ne serait-ce que sur deux ou trois vers qui pourraient se trouver en plein milieu de la poésie, il commence par là pour ensuite développer. Tout le contraire de ce qu'on imaginerait comme démarche, de commencer a priori par les premiers mots et ainsi de suite.
Absolument. Mais il faut savoir que dans la création de mélodies de Francis Poulenc, tout n'était pas facile. Hein. Il faut savoir que le compositeur était un compositeur qui était assez, entre guillemets, spécial, hein, parce qu'il pouvait très bien, à un moment donné, refuser sa musique. Il y a eu des scènes comme ça qui ont été faites avec son ami Stéphane Audel, où à un moment donné, il plaquait tout et il jetait les partitions à travers la pièce en disant « je suis un mauvais musicien, ma musique n'est pas bonne ». Ou alors, lorsque des musiciens venaient interpréter ses œuvres, il pouvait très bien prendre son chapeau, son cache-colle, et quitter ni plus ni moins la salle. Donc il y avait des choses qu'il arrivait à supporter et d'autres moindres parce que effectivement ça ne correspondait pas à son image de marque, à ses personnalités, à son feeling le plus profond.
Oui, une intuition très enfouie, puisque c'est là-dessus qu'il se base essentiellement, pas tant sur une formation académique que sur cette intuition profonde à laquelle il fait confiance. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que malgré ce manque de formation, pardon d'insister là-dessus, dès 1920, il est associé à ce qu'on appelle le groupe des six, ce qui est une reconnaissance quand même extrêmement jeune, là aussi. Comment est-ce qu'on passe comme ça de l'intuition et de quelques rencontres à une telle reconnaissance?
Alors, je vais
au
vous
point
dire...
d'être associé à Auric, à Honegger, à Millot, etc.
Je pense que toute cette diversité de compositeurs comme Jean Jauric, Louis Durer, Arthur Honegger, Darius Milhaud et Francis Poulenc, et bien sûr la seule femme de ce groupe, Germaine Taillefer, il ne faut pas l'oublier, ça a été une rencontre aussi originale que prévue, à savoir que chacun se cherchait un petit peu dans son domaine, et au même titre qu'il y avait le groupe des cinq Russes, avec Moussorski, Kui, Balakirev, Borodine et Rimsky-Korsakov, ils se sont regroupés dans un endroit et ont essayé de donner, sous l'impulsion tout de même de Jean Cocteau, cette particularité d'un groupe qui pouvait créer de la musique et associer poésie, musique et art avec un grand A. Mmh. Et donc, chacun arrivait à s'y retrouver, puisqu'il y avait des réunions, effectivement.
Oui. Même s'ils étaient très différents, quand même.
Même s'ils étaient très différents.
On pense peut-être que le groupe
ils se complétaient quelque part. Oui, ils se complétaient quelque part. Et puis, c'était aussi une façon pour eux de se retrouver une fois par semaine. Alors, il y a une petite anecdote très sympathique où on sait que c'était Francis Poulenc qui accueillait les invités, pour ainsi dire, en jouant son mouvement perpétuel. Et donc, ils arrivaient, ils se réunissaient dans la rue Huguens, dans le 14e, et ils avaient plaisir de se partager, chacun avec sa particularité, mais c'était une rencontre qui allait au-delà d'une amitié. Il y avait une fusion, je pense, entre eux, et ça, c'était mené de maître par Jean Cocteau, qui effectivement donnait cette impulsion aussi. Francis Poulenc a aussi touché le monde du théâtre, le monde de la danse, le monde artistique avec un grand A. À savoir qu'effectivement, il a été tout de même le précurseur d'un ballet qui s'appelait Les Biches, sur une chorégraphie de Serge Liffard, qui a été tout de même, à l'époque, déclencheur d'une certaine révolution, puisqu'on le considérait que c'était un ballet érotique, et donc ce qui avait fait effectivement beaucoup parler de lui à cette époque.
C'est en 1924, création à Monte Carlo.
À Monte Carlo. Mmh, mmh. Bien sûr, il y avait tout ce panel des ballets russes, dirigé par Serge de Diaghilev, qui a fait, effectivement, que ça a pu aussi donner cette impulsion. Mmh, mmh. Parce qu'à travers les poètes, à travers les musiciens, sont venus se greffer aussi les peintres, avec Marie Laurencin, Christian Bérard, également les chorégraphes, Serge Liffard. Ça représentait effectivement une faune artistique dense et importante, et ce qui donnait aussi cette impulsion de créativité.
La reconnaissance de Francis Poulenc à son époque est énorme. Je crois qu'il a un énorme succès populaire, qui était même un petit peu envié, jalousé ou critiqué,
oui,
je crois.
Oui, oui, parce que Francis Poulenc, souvent, lorsque je fais quelques interviews, je le définis un petit peu comme ça, chacun peut trouver son Poulenc. Mmh. C'est-à-dire que Francis Poulenc est un petit peu intouchable. On peut trouver de la musique concertante, on peut trouver des mélodies, on peut trouver, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, des mélodies gaillardes, on a des chansons pour enfants. Donc, si vous voulez... Il a pu être à la portée de tout un chacun. Lorsqu'on veut connaître Poulenc et qu'on est un tant soit peu, pas trop mélomane, on peut conseiller de jolies mélodies. Ou alors pour des enfants, Babar et sa liaison avec Jean de Brunhoff. Mais sa particularité, c'est qu'il a popularisé, on a popularisé un petit peu Poulenc.
Et mais dès son époque, comment s'est passée la reconnaissance de Poulenc à son époque?
Si vous voulez, à son époque, les gens trouvaient déjà en lui... un excentrique. Bon nombre de personnes qui ont pu le connaître et qui font partie de l'association m'ont dit, effectivement, il était d'une originalité hors pair. Et donc, ça s'est ressenti déjà dans sa créativité musicale.
Ce qui lui a permis effectivement de nouer ses amitiés avec tous ces artistes à l'époque et peut-être lui a permis d'avoir cette
popularité. Voilà. Ouais, et puis lorsqu'il allait aux guinguettes à Nogent, et bien effectivement, ça a influé ensuite des mélodies du style des danses villageoises qui sont très, très, très enjouées et qui rappellent un peu ces guinguettes du bord de la Marne.
Alors, la reconnaissance de Poulenc a quand même ses limites. Puisqu'il n'entre pas à l'Académie des Beaux-Arts, contrairement à Millot et à Auric et à Honegger en tant qu'associé étranger. Il ne correspond quand même pas tout à fait aux critères de l'époque. Il est un petit peu à part.
Oui, surtout, comme on le disait au départ de l'entretien, c'est-à-dire que c'est le fait d'être un autodidacte qui a fait qu'il n'a pas pu suivre le parcours complet pour pouvoir rentrer à l'Institut. Je vous dirai simplement mon commentaire là-dessus. Je trouve que c'est trop injuste parce que Francis Poulenc est un compositeur de renom. C'est un compositeur qui représente bien la musique française. C'est un compositeur qui a effectivement, on n'a pas suivi le cursus normal puisque ses professeurs n'étaient autres que Vignès. Et je pense que malgré tout, il aurait sa place à l'Académie.
Francis Poulenc était pianiste essentiellement de formation. Il a d'ailleurs beaucoup écrit pour piano. Il a écrit un concerto pour deux pianos. C'est un instrument qu'il chérissait. Il a fait aussi beaucoup de récitals, je crois, pour voix et piano. Et c'était lui-même qui accompagnait les chanteurs au piano.
Absolument. Alors là-dessus, on a tout de même deux grandes figures qui étaient en figure de proie de Francis Poulenc, c'est Denise Duval d'une part.
Qui a créé la voix humaine.
Qui a créé la voix humaine. Et Denise Duval était vraiment son idole, si on peut dire. C'est-à-dire que Dieu sait que Francis Poulenc a pu écrire des mélodies qui étaient destinées spécialement pour Denise Duval.
Nous et avons la voix humaine a été composée aux côtés de Denise Duval.
Absolument. Et pour Denise Duval. Ouais. Parce que nous avons une version pour soprano et piano qui est encore actuellement dédiée et dont les droits sont réservés à Madame Denise Duval. Mmh. Donc bon nombre de sopranos viennent nous à l'association demander si la possibilité de pouvoir l'interpréter. Mais cela est refusé puisque c'est effectivement un contrat que Francis Poulenc a eu avec Denise Duval pour la laisser la seule interprète dans cette version piano et soprano.
Avant Denise Duval, il y a eu le baryton Pierre Bernac, je crois, qui a joué un grand rôle pour aussi la composition de ses mélodies, lui a permis de comprendre un peu le mécanisme de la voix puisque Poulenc, j'imagine, n'était pas chanteur.
Absolument. Poulenc n'était pas chanteur et lorsqu'il a rencontré Pierre Bernac, également avec Yvonne Gouvernet, eh bien ce trio ont pu donner cette impulsion de créativité ou de mélodie qu'il a pu donner dans la voix avec un baryton.
Oui, c'est avec Pierre Bernac qu'il crée « Tel jour, telle nuit » de Paul Éluard en 1937, par exemple.
À toute brille, toi dans le fantôme, Pierre Clavis à la violon, bienvenue dans les bois. Cherche de l'ouragan, cherche leur chemin par chez toi. Tu n'es pas de celle dont on invente les désirs. Viens voir les baisers par ici, c'est nos vues qui te désespèrent.
Pour terminer cette introduction à Francis Poulenc, pour donner un peu envie, c'est vrai que vous parliez de la diversité des œuvres de Francis Poulenc, et ce qui est frappant, Claude Rostand le résume bien en disant que Francis Poulenc est à la fois moine et voyou. Francis Poulenc a quand même eu une révélation mystique en 1936, à partir de laquelle il crée plusieurs œuvres sacrées, sa fameuse messe en sol et des motets, etc. Il était aussi bien capable de composer un Gloria, aussi bien que de s'inspirer de Babar.
Absolument. 1936, Francis Poulenc se trouve à Uzerche en compagnie d'Yvonne Gouvernet. Et là, il apprend la mort d'un accident de voiture d'un de ses amis. Et à ce moment-là, il est pris d'effroi. Il se réfugie près de la grotte. Il se trouvait près de Rocamadour, donc. Et il a, comme il le dit lui-même, une révélation. Et effectivement, il y a un changement brusque dans son écriture musicale, à savoir qu'il s'inspire beaucoup des musiques religieuses catholiques. Mmh. Voilà, et donc il est rentré dans la passion, si on peut appeler ça, mystique, ce qui fait que ça a été le déclencheur d'œuvres comme les Litanies à la Vierge Noire ou le Gloria.
Je crois qu'il a beaucoup étudié à cette époque Monteverdi.
Tout à fait, il étudie Monteverdi, il est également dans cette osmose, si vous voulez, musicale, et ce qui l'influe quelque part dans ses directives d'écriture.
Et à côté de cela, il est tout à fait capable, mais exactement à la même époque, d'écrire des chansons villageoises.
Absolument. Là-dessus, on retrouve encore cette, comme vous le disiez tout à l'heure, et que Claude Rostand l'avait signalé dans ses entretiens, ce côté moine et voyou. C'est-à-dire qu'on va d'un extrême à l'autre. On peut aller dans le mystique le plus profond, dans les chansons villageoises ou dans les chansons pour enfants qu'il a écrites avec Jaboun, Jean Noël, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de Francis Poulenc ? Évidemment, énormément de choses, et comme je disais en introduction, peut-être ce que chacun aime y retrouver selon ses goûts. Moi, ce qui me frappe, c'est que Poulenc fait partie tout à fait du patrimoine en France et même à l'étranger. C'est un compositeur tout à fait reconnu et qui a sa place, et même qui fait l'objet de reprises au jazz. Par exemple, j'ai écouté Jacky Terrasson faire une reprise des Chemins de l'amour au piano, qui est absolument magnifique. C'est quelqu'un qui est rentré dans notre inconscient collectif musical, on pourrait dire.
Je pense, et puis je pense que par la création des cahiers de Francis Poulenc, cette dynamique qu'on a voulu donner auprès de l'association, c'était justement de reparler de Francis Poulenc, de pouvoir le faire redécouvrir à la nouvelle génération, où malheureusement tout va très vite maintenant et tout s'oublie très vite hein, dans cet océan culturel que l'on a. Et donc, avec la famille du compositeur, nous nous sommes attelés à faire paraître ce cahier de Francis Poulenc, qui se veut être un trait d'union entre les gens qui ont connu Francis Poulenc, parce qu'il en reste, hein, Dieu merci, et la toute nouvelle génération. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur de savoir que Jacky Terrasson reprend les chemins de l'amour, parce que c'est une mélodie qui est connue, et qui se remet au goût du jour, même dans une version qui n'est pas celle respectée du compositeur.
Alors donc je renvoie nos auditeurs au cahier Francis Poulenc, donc dont le premier numéro est paru à l'automne 2008, qui comprend des chapitres très divers et très agréables, allant de la bibliothèque idéale de Francis Poulenc, Poulenc et la poésie, particulièrement Apollinaire, une analyse de la messe en sol majeur, et puis il y a quasiment la moitié de ce premier cahier Francis Poulenc qui est consacré à l'amitié entre Denise Duval et Francis Poulenc, et Denise Duval à la muse de Francis Poulenc.
Absolument,
pour laquelle il avait une sorte d'amitié éperdue, très étrange.
Oui, très étrange, effectivement. Mais je dois dire que ce livre qui est sorti, il y en aura d'autres, hein, puisqu'on prévoit d'en sortir un second en avril, a été vraiment le déclencheur parmi le grand public d'une redécouverte de Francis Poulenc, parce que...
Il n'a jamais été oublié, tout de même.
Il n'a jamais été oublié. Le compositeur le plus joué du groupe des six... Nous avons redynamisé un petit peu son image. Nous avons donné la parole à des jeunes musicologues également pour pouvoir parler, nous donner leurs impressions.
Mm-hmm. Mais aussi à Georges Prêtre qui nous a préfacé ce cahier.
Bien sûr, on aura le second qui sera préfacé par Jean-Claude Casadesus. Il y a vraiment une dynamique et il y avait une attente, en fin de compte, de cette passion pour le compositeur. Les gens se sont retrouvés un petit peu en lui. Et c'est une gageure en 2008-2009 de pouvoir le remettre au goût du jour. Voilà, c'est un petit peu ça, cette dynamique que l'on fait.
Merci beaucoup Simon Basinger.
Merci.